Ismaël au Cachin oriental. J'ai réduit totalement cette
équipe. Moi, c'est Céline de Combati au Castanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'acquis de méprisement, trouver une solution par rapport à ça.
D'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Le 21 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la paix. Instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2001, cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations et de peuples qu'entre ceux-ci. Notons que la RDC, qui célèbre cette journée en tant que pays membre des Nations Unies, est engagée dans le chemin de la paix après près d'une décennie de conflits. Que proposez-vous pour consolider efficacement les processus de paix en RDC? 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Et Julie César est à la réalisation de cette émission. Mise en onde par Paul Badenyama, Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Nikon Gaka Fidel. Auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Comment la RDC peut-elle consolider son processus de paix entamé après une décennie de conflits? La question est au centre de notre échange. Partout où vous êtes, votre proposition et piste des solutions pour la culture de la paix dans notre pays sont les bienvenues. Nous avons associé à cet échange le professeur Bernard Boutoula. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes facilitateur au sein de la société civile. Mais avant d'aller plus loin avec nos auditeurs, mais pourquoi célébrer une journée consacrée à la paix?
Mais tout à fait normal, parce que vous connaissez notre pays, comparativement à d'autres pays, souffre de l'absence de la paix. Il y a partout de guerres qui ne cessent pas à se terminer. Et les gens, les Congolais, ne vivent pas de manière qui est en inquiétude, je vous l'ai dit. Et c'est tout à fait normal que quand on arrive à cette date-là, on puisse commémorer cette date qui est très, très importante.
Mais pour ne pas tomber dans la routine des célébrations, parce qu'on a beaucoup de journées qui se célèbrent chaque année, pour ne pas tomber dans la routine, comment on doit, cette célébration peut être ancrée vraiment au sein du cœur, de la mentalité, de la conception des Congolais, pour éviter de tomber dans la routine des célébrations?
L'innovation pour cette année, c'est que nous allons planter un arbre pour symboliser la culture de la paix. Donc, en République démocratique du Congo, on doit cesser à des célébrations qui se répètent sans donner un signal fort. Il faut maintenant inculquer la culture dans les chefs des leaders d'opinion, dans les chefs des leaders politiques, parce que si on n'est pas en paix, on ne va pas aspirer au bonheur.
Et quand vous dites qu'il faut en créer, il faut que cela doit être considéré ainsi dans les livres des uns des autres. Qui a l'initiative de sensibiliser, d'amener les gens à la conception de la culture de la paix?
Mais tout à fait normal, dans un pays ou dans un État, c'est le gouvernement qui doit faire une situation tout à fait personnelle. Donc le gouvernement doit orienter la préoccupation de la paix et la société civile doit s'en approprier.
Et le gouvernement, la société civile, quand on parle de société civile, ça veut dire quoi, professeur? C'est l'ensemble de tous ceux qui ne sont pas membres des partis politiques?
Mais la définition est claire. La société civile, c'est ce qui n'est pas militaire, ce qui n'est pas politique. Et le reste constitue la société civile.
Et le gouvernement peut donner une orientation sur ce qu'on veut vraiment de la paix, et comme ça l'idée peut être appropriée, tout le monde peut s'en approprier.
Oui, s'en approprier, pas seulement s'approprier, enrichir l'idée que le gouvernement donne pour que la population s'en approprie et la société civile s'interpose en tant qu'interface entre les décideurs et le gouvernement.
Voilà, on va revenir à vous, professeur. Les auditeurs sont très nombreux qui veulent bien contribuer à cette émission consacrée, bien sûr, à la paix à l'occasion de la célébration le 21 septembre prochain de la Journée internationale de la paix. Comment la RDC peut-elle consolider son processus de paix? Arsène, vous nous appelez des Cupites dans la province de Bandundu. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Vous avez suivi, le professeur a dit, il y a d'une part le gouvernement, il y a aussi d'autre part la société civile, la population. Mais alors, comment les deux peuvent-ils travailler ensemble pour la consolidation du processus de paix?
Merci beaucoup, monsieur Pierrot. Moi, je crois, à mon avis, comme le professeur l'a dit, toute chose a un moteur. Pour marcher, pour prendre un mouvement, il faut un moteur qui donne le mouvement. Et comme le professeur venait de le dire, je crois que le gouvernement a un travail à faire. Ce travail-là, c'est ce travail qui va pousser la société civile et toute autre organisation politique comme professionnelle de s'accaparer de l'idée du gouvernement pour instaurer la paix. Mais drôlement, ici chez nous, on dirait que notre quiétude souvent est bousculée par la politique de cette nation. Mm-hmm. La politique de la nation est quelquefois brouillée par les intérêts personnels. Vous voyez, M. Pierrot, quand les gens vont tout droit vers l'initiative de la paix, mais il y a de ceux qui, d'un côté, préparent les armes. Il y a de ceux de l'autre côté qui préparent les théories qui vont juste toucher la quiétude même de la population. Et il y a des réactions. De ces réactions-là, il y a des paroles injurieuses ou des paroles malveillantes qui sortent. Parce que ces histoires-là vont entraîner des méfiances vis-à-vis de la population, des méfiances vis-à-vis des organisations, et qui vont entraîner la mauvaise vie. Aujourd'hui, nous sommes obligés, nous Congolais, avec l'expérience que nous avons, avec toutes les guerres que nous avons connues, avec tout ce qu'il y a eu comme conflit politique, social, ainsi de suite, nous devons avoir cette culture-là de construire la paix. Je regrette quand j'apprends, par exemple, qu'une organisation de la société civile est mécontent de quelque chose qui veut se passer dans le gouvernement ou dans les chefs des hommes politiques, ces mêmes hommes politiques se lèvent avec une arrogance notoire, commencer à crier, à sortir des paroles malveillantes. Qu'est-ce que ça fait à la population? La population s'inquiète. Et ceux qui ont l'habitude de prendre les armes, ils affichent leurs armes pour dire, écoutez, nous allons profiter de cette situation pour créer un désordre. Donc, je voudrais conclure dans le sens que nos dirigeants, nos politiciens, nos hommes politiques doivent savoir que l'époque où il faut créer des conflits entre concitoyens est révolue. Aujourd'hui, nous allons tout droit, vous avez vos idées, vous placez ça sur la place publique, on débat et on résout le problème avec toute tranquillité au lieu de sortir des paroles qui fâchent ou des paroles qui inquiètent. Donc, c'est ça un peu mon avis.
Merci beaucoup, Arsène. Arsène, vous avez évoqué les pratiques politiques, la méfiance, la culture de la paix. Vous estimez que la paix est troublée quand les acteurs politiques ont des pratiques qui créent la méfiance entre la population, les semeurs des troubles en profitent, ceux qui veulent utiliser les armes en profitent pour provoquer des troubles, des conflits et des déstabilisations. Alors, il est temps, vraiment c'est important ce que vous avez dit, nous sommes à l'époque du débat, cela veut dire à l'époque de l'échange d'idées, du débat, pour pouvoir consolider et construire la paix. Merci beaucoup, Arsène Niembo. Vous êtes à Kalima, dans la province de Maniema. Bonjour.
Oui, bonjour, M. Pierrot.
On vous écoute, Niembo. Comment est-ce qu'il faut faire pour consolider les processus de paix?
Oui, merci. Je voulais d'abord faire une petite parenthèse parce que je me souviens, lorsque nous étions ici en guerre, la période, on n'a pas senti vraiment la paix. La population n'est pas, en tout cas, bien pacifique. Il y avait des personnes qui ne vivaient pas. Il y avait des travailleurs qui ne recevaient pas leur salaire. Il y avait des métiers qui ne travaillaient pas. Donc, toutes choses, les cultivateurs ne cultivaient pas. Parce que si vous allez même à la forêt, comme il n'y a pas la paix, là où vous partez, vous trouverez des bandits là-bas et ils vous prendront et ils vont partir avec vous. Mais aujourd'hui, nous remercions cette période-là est passée, nous sommes les élèves étudiés, toutes choses marchent bien. Pour maintenant faire à consolider la paix à notre pays, je voulais interpeller tout de même la conscience de nos Congolais, les gens qui sont des banditismes, qui ont l'habitude de faire la rébellion, puissent cesser cette habitude, parce que s'ils continuent à cette habitude, tout le monde sera incapable de faire ce qu'il voulait faire. Et vous verrez, même vous allez, donc vous achetez les pelles à la période où il y a la paix, mais quand la paix manquera, les gens mangeront même les condos qui n'ont pas du sel et de même les filles qui disent que nous, il y avait une période où les gens manquaient même les sucres, les malades souffraient à l'hôpital général pour manquer seulement les sucres et les médicaments parce que les vols aussi n'étaient pas assez fréquents. Et donc nous avons connu beaucoup de choses.
Voilà, ça, c'est important ce que vous avez dit, Niembo. C'est important ce que vous avez dit, vu la situation que beaucoup de nos populations ont connue à travers, n'est-ce pas, la guerre. Les gens ne travaillent pas, les gens ne peuvent pas aller au champ, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'avion qui circule, il n'y a pas moyen de pouvoir se procurer même le minimum, les enfants ne savent plus aller à l'école. Vu cela, face à tout cela, vous appelez à la conscience de la population congolaise, à ceux qui recourent, par exemple, aux armes, hein, pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit, vous leur demandez de pouvoir cesser et que tout le monde se tourne dans la direction de la paix, parce que c'est la paix qui permet aujourd'hui à Kalima que les enfants puissent aller à l'école et que les gens puissent travailler. Merci beaucoup, Niembo. Rachel, vous êtes à Isiro, en province orientale. Bonjour.
Allô,
bonjour. Alors, vous écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider les processus des pays en RDC?
Oui, merci pour la parole. Premièrement, je dirais qu'il faut vraiment maintenir une paix durable dans notre pays. Il faut premièrement avoir une armée efficace, donc une armée prête à défendre l'intégrité territoriale. Donc, une armée donc qui va chercher à se battre pas pour leur intérêt, mais pour protéger la population. Et deuxièmement, c'est l'exemple, je dirais, que ça devait venir de notre, donc, de nos gouvernants, nos gouvernants. Parce que s'il y a des mésententes à traiter, et il n'y aura pas vraiment la paix dans notre pays. Je remercie beaucoup de parce que ces derniers temps, je crois que la population de l'Est, ils ont un peu trouvé la paix. Là, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup, Rachel. La paix aussi, c'est avoir une armée efficace qui peut défendre les territoires nationaux. Mais vous avez évoqué l'entente entre les politiques. Vous estimez que tout vient aussi du manque de dialogue, du manque d'entente entre les politiques. Cela peut conduire aux troubles et au manque de paix dans le pays. Merci beaucoup. Nous revenons à vous, professeur Bernard Boussoula. Vous avez suivi nos auditeurs. Il y a la responsabilité de la classe politique dans les débats, d'échanges d'idées qui arrivent avec Arsène et qui pensent à ça. Niembo lui pense un peu plus aux revendications avec des armes. Et puis Rachel pense à la même chose, avoir une armée efficace, mais aussi des discussions autour de entre les classes, la classe politique. Cela peut permettre à ce qu'on puisse vraiment avoir une paix durable. Quel est votre commentaire par rapport à cette vision de nos auditeurs?
Merci beaucoup, M. Pierrot. Je suis très heureux que les trois auditeurs qui ont pris la parole après moi aient le plancher dans la même vision que moi. Mmh. Et j'avais dit dans mon introduction que tout part du gouvernement. Le gouvernement doit lancer un ton pour que les restes puissent suivre. Parce que le gouvernement, c'est le maître en chef. Quand les gens partent prendre les armes, c'est dire qu'ils sont frustrés quelque part. Mmh. Alors, d'où est venue la frustration? Je me dis, nous sommes dans une famille qu'on appelle la nation congolaise et il n'y a que le gouvernement qui est qui assure le pilotage de ces grands bateaux. Donc, il doit orienter les choses de telle manière que ce genre de frustrations ne puissent pas avoir lieu. Les bandits, comme appelé M. Niembo, les bandits qui veulent semer l'insécurité. Mais lorsqu'il n'y a pas de travail, le ventre affamé n'a point d'oreille. Et cette personne a droit à la vie. Vous voulez qu'il fasse quoi? Alors, il va faire ce qu'il peut faire, ce que nous n'encourageons pas. Bref, il faut améliorer les conditions de vie des populations. Lorsque ces conditions sont améliorées, on ne va pas effacer totalement l'insécurité, mais on doit la réduire de telle manière qu'on puisse vivre en paix.
Mais est-ce que quand on parle du gouvernement, quand on parle de la paix, est-ce qu'il faut seulement considérer la paix en termes de guerre ou il y a une autre conception de la paix par rapport aux relations même au sein de la société? Vous qui travaillez comme facilitateur de dialogue au sein de la société.
Mais je l'ai dit tout à l'heure, quand on dit améliorer les conditions de vie, il n'y a pas que la guerre. Il faut travailler, il faut que les gens mangent, il faut que chacun de nous soit assuré que le matin quand il se réveille, son petit pain de 200 francs, il puisse en avoir. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui en manquent même pendant deux jours. Et je ne veux pas dire que c'est pas dans notre pays. Mais comme nous n'avons pas la culture de paix, ailleurs dans notre pays, il y a un taux élevé de chômage. Mais Est-ce que ce genre de banditisme est élevé comme le Kouloun et consort? Mais nous n'avons pas la culture de paix. Nous avons une obligation de créer un autre mode de vie de telle manière que ceux-là qui se livrent à ce genre de besoins puissent être maîtrisés. Et, par exemple, dans la ville de Kinshasa, heureusement que le gouverneur de la ville avec la police nationale font un grand travail, un travail qu'il faut reconnaître positivement. Mais nous pensons que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre. La paix, c'est l'absence de la tranquillité. La paix, lorsqu'on n'est pas inquiétude au niveau de la famille, lorsque le papa a tout moment de suite avec la maman, on n'est pas en paix. Les enfants ne vont pas bien évoluer. Ils partent à l'école, ils reviennent, ils trouvent les parents toujours en dispute, ils ne sont pas en paix. Donc il y a beaucoup de facettes de paix et nous, de la société civile, nous avons un grand travail. On ne doit pas seulement pointer du doigt le gouvernement, nous devons assister, accompagner le gouvernement pour que nous puissions arriver à faire comme d'autres ici.
Mais l'instauration d'un dialogue, par exemple, les échanges, la tolérance, tout cela, comment peut-il être structuré au sein de notre société à travers les différentes corporations? Parce qu'il y a notre ami Arsène qui a beaucoup insisté sur ça. Il dit nous sommes à l'époque du débat pour échanger. Alors, est-ce que c'est une histoire qu'on doit prendre seulement à l'âge adulte ou y a-t-il moyen de pouvoir inculquer cela dans la culture, dans la mentalité, à l'école, en famille?
Tout part de la famille. Tout part de la famille. Dans d'autres familles comme la mienne, par exemple, moi, je sors un dialogue avec les membres de ma famille, c'est-à-dire mon épouse et mes enfants. Je ne dois pas dire que tout ce que je pense aujourd'hui avec la mondialisation, les enfants ont l'éducation parallèle, ils sont en contact avec les autres collègues, ils ramènent une information positive et que je n'ai pas, je dois avouer, j'accepte, on partage l'idée. Donc cet exemple, si on le transpose dans la société, dans la rue, il faut pas, le gouvernement, je l'ai dit parce que c'est le cerveau moteur, mais tout doit part de la famille et la rue, la commune, le quartier. Si nous assurons l'éducation à ces niveaux-là, alors la chapelle que nous voulons construire sera solide.
Merci, professeur. On va revenir à vous. Tout part aussi de la famille, de l'école, de la société, la discussion. Et tout cela, c'est vraiment important. Mais nous avons aussi les auditeurs qui ont réagi à travers notre page Facebook, comme Samuel Tembo Moindo de Kinshasa. Chers Congolais, la paix est entre nos mains. Éloignons-nous de la trahison et la paix nous reviendra pour toujours, sans même faire appel aux étrangers, car nous avons tous les nécessaires. Jacques Arakayo Aïsiro, je propose l'alternance au pouvoir et le respect de la Constitution comme socle pour aussi construire et consolider la paix. Diana, qui l'a dit, que Curtis de Lubumbashi, moi je pense qu'il faut que notre pays retrouve la paix, nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas laisser la communauté internationale, les autres personnes étrangères nous diviser et nous imposer certaines marches à suivre. Il y a beaucoup de choses qui sont imposées et que nous devons étudier toutes ces organisations. Nombreux retards de le développement de l'Afrique en général et du Congo en particulier. Il y en a qui sont à la base de beaucoup de troubles. Et nous pouvons connaître la paix que quand nous allons nous prendre en charge nous-mêmes. Bien fait, Beiza, selon moi, cette journée, parce que depuis 2001 qu'on célèbre cette journée, il n'y a pas du tout la paix. Il y a des massacres et des poches de guerre qui continuent encore au Congo. C'est pour arriver vraiment à la paix, nous devons respecter la Constitution, nous devons faire appliquer les lois et nous, les Congolais, nous devons nous prendre en charge. Olivier Diouma Delicacy au Katanga, pour consolider la paix ici chez nous, en RDC, il faut seulement le respect des lois, des textes juridiques qui dirigent les pays. Nous devons respecter les lois que nous-mêmes nous avons mises en place et la population vivra en paix. Et Manu Pia, qui nous a écrit Bingende dans la province de l'Équateur. Il dit, nous devons respecter les lois du pays et la constitution. Cela va amener à consolider la paix. Professeur, vous voyez, effectivement, beaucoup d'auditeurs reviennent sur le respect des lois, le respect des textes juridiques, le respect de la constitution. Ils reviennent un peu sur le débat politique, qui doit être aussi le socle, n'est-ce pas, de la construction d'une paix durable dans un pays post-conflit comme les nôtres. Nous avons évoqué tout à l'heure les uns et les autres, chacun dans son rôle, que ce soit le politique, que ce soit... Mais quand vous regardez la manière dont les débats politiques se déroulent dans notre pays, la manière dont la classe politique congolaise collabore et vit, pensez-vous que il y a cette impression, ce souci de pouvoir vraiment cultiver le dialogue, les débats, l'échange pour renforcer cette paix acquise après autant d'années de conflits.
Merci Pierrot pour cette question. Nous, au niveau de la société civile, nous sommes en train de suivre de trop près le débat. Il est politique, le débat est politique, et nous disons que là où le papa discute avec la maman, un enfant mûr doit faire tout pour essayer de faire disparaître la dispute.
Uh-huh.
Et c'est ainsi que nous disons, nous sommes une force tampon entre le pouvoir et l'opposition. Un pays où il n'y a pas d'opposition, on ne va pas bien gouverner.
Uh-huh.
Un pays où il n'y a pas de gouvernement, où il n'y a pas de pouvoir, donc on est dans la guerre.
Uh-huh.
N'importe qui fait n'importe quoi. Chacun de ces deux parents tire la ficelle dans la Constitution. Le débat, comme nous avons dit, l'un ou l'autre parle de la Constitution. Mais nous disons, nous avons entamé un travail dont on ne va pas livrer les contenus maintenant parce que
uh-huh.
il doit y avoir une évaluation. Vous entendez dans les jours qui viennent la Merci. Position de la société.
Voilà. On va revenir à vous. Je rappelle encore à nos auditeurs le numéro d'appel pour intervenir en direct 081-890-7315.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi.
Étienne, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour consolider le processus de paix, Étienne?
Ok, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je pense, à mon avis, que si aujourd'hui on doit parler la paix, ce n'est pas tellement considérer la paix comme la situation de guerre et consorts. Je crois qu'il y a plusieurs autres aspects qu'on doit en tenir compte, que la RDC doit tenir compte, justement, pour que la paix puisse vraiment être de mise en République démocratique du Congo. Je voudrais là parler de quelques deux, trois aspects. D'abord, mais que le jour, là, comme le professeur a dit là, je crois un Congolais aujourd'hui qui se lève le matin, qu'il soit fonctionnaire ou chômeur, qui se demande qu'est-ce qu'il doit manger vers la fin de la journée, là, il ne vit pas non plus en paix. Mais également aussi, monsieur le journaliste, la condition de vie d'une manière générale, donc, là, je parle là de l'aspect social, quoi. Donc, la condition de vie des Congolais aujourd'hui ne garantit pas la paix. Donc, ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix, c'est qu'on doit chercher à organiser et à améliorer le social des Congolais. Une fois le social est vraiment amélioré, je pense que la paix sera à 70% sur l'étendue du pays. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui prennent la guerre, ceux qui sont à la rue, les Kouluna, les chefs des consorts là, ce sont des gens, s'il faut les demander, ils vous diront qu'ils ont des problèmes particuliers. Alors, si on doit chercher, le gouvernement congolais doit chercher à connaître quels sont les vrais problèmes de ces Congolais-là qui prennent les armes. Donc, tous ces problèmes-là, si aujourd'hui on arrive donc à trouver solution à ces problèmes. Moi, je pense, à mon avis, que on va trouver la paix, si pas dans sa totalité, mais quand même, on aura une paix durable et on voit. Aujourd'hui aussi, monsieur le journaliste, s'il faut voir, par exemple, chaque année, il y a des diplômés qui sortent. Ils ont le diplôme, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, ils restent des chômeurs. Voilà, là, ils sont en train de voir où est-ce qu'on peut attraper des jobs, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la vie. Donc, tout ça, ce sont des problèmes, et là, ils n'ont pas la paix morale, ils n'ont pas la paix intellectuelle. Donc, je pense que si on doit tenir compte de ces aspects, améliorer le social des Congolais, améliorer le moral, l'intellectuel des Congolais, je pense qu'on pourra faire quelque chose et on aura la paix, mais on ne dit pas la situation de guerre, par exemple, parce que, vous savez, il n'y a pas un vrai dialogue au Congo. Si on doit quand même tenir un dialogue et un dialogue sincère au Congo, je pense ce soit les belligérants, que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, s'ils se mettent autour d'une table et s'ils se disent des vérités, certaines vérités, je crois qu'on pourra voir qu'est-ce que le parti veut, que veulent l'opposition, que veulent les belligérants, ainsi de suite. Et là où on va garantir la paix au peuple congolais, que de rester rejeté des responsabilités, la majorité.
Oui, en fait, Étienne, vous estimez qu'il y a deux volets dans votre intervention. Je retiens qu'il faut d'abord que le pouvoir public lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Il faut donner de l'emploi aux gens. Les gens doivent se faire soigner. Ils doivent résoudre le minimum de leurs besoins et ce qui peut leur permettre de vivre en paix. Mais il y a aussi d'un côté la paix comprise dans ce qui concerne le dialogue entre les uns et les autres, au niveau de la classe politique, la société civile. Il faut dialoguer, il faut discuter, il faut trouver les préoccupations des uns et des autres, et comme ça on peut construire la paix dans cet ensemble-là. Merci beaucoup Étienne Mathieu, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, merci bien monsieur le journaliste Pierrot de pouvoir m'accorder la parole. On se trouve à partir de Kananga. À propos de votre question du jour concernant la consolidation de la paix dans notre pays, comment y parvenir? D'abord, en ce qui me concerne, la paix constitue tout, le moteur même de l'élan économique pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous devons revenir à notre devise, paix, justice, travail. Comment nous pouvons aujourd'hui parler de la paix sans passer à la justice? C'est la justice qui fera naître la paix afin de partir au développement du pays qui vient du travail. Comme vous le savez, il n'y a plus de développement sans paix. Malgré la loi sur l'amnistie, c'est je pense insuffisant pour amener la paix dans notre pays. Pour enregistrer encore plusieurs détenus politiques dans des différentes prisons dans notre pays et ailleurs, à l'exemple de ce pays à la haine. Comment parvenons-nous à organiser un climat de la paix dans notre pays avec une politique de la division, d'exclusion et de la haine que je considère de l'Autriche et de la terre brûlée? C'est pourquoi il y a dans notre pays plusieurs trêves de paix qui ne parviennent plus à résoudre cette situation, puisqu'il n'y a plus l'ouverture et la volonté politique. Dans ce pays, il faut aussi savoir le rôle de l'éducation et son impact sur la construction durable dans notre pays, sans oublier une vraie réconciliation nationale à partir de la base jusqu'au sommet.
Voilà, voilà ce que vous avez dit, c'est important, Mathieu. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la paix, vous avez parlé de la justice. Vous avez dit que la justice doit être un socle pour la construction de la paix et qui va amener au développement. Mais vous avez évoqué l'éducation, la volonté politique, l'ouverture, les dialogues, la discussion. On comprend que tout cela doit se discuter au sein de la société civile, au sein de la classe politique, pour arriver vraiment à construire la paix qui est le socle même du développement. Merci beaucoup pour ce point de vue. Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Papu, vous êtes ici à Kinshasa, vous allez garder la ligne. Je rappelle encore que le 21 septembre, ça sera le dimanche, le monde célèbre la journée internationale de la paix. En RDC, le pays membre des Nations Unies, qui a connu bien sûr une décennie de conflits. Comment consolider les processus de paix entamés depuis plusieurs années déjà? Les numéros d'appel pour intervenir en direct 081 890 75. Mais en ce moment, et avant de pouvoir écouter Papi Kinshasa, nous allons écouter le message du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la célébration de cette journée bien sûr de la paix. C'est le message de monsieur Martin Kobler.
Chers auditrices, auditeurs de Radio Okapi, bonjour, c'est Martin Kobler, le chef de la MONUSCO. Dimanche prochain, le 21 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix. Une journée de paix et de calme. Une journée sans violence, sans viol, sans enlèvement et sans extorsion. J'appelle tous les groupes armés en RDC à stopper les combats et mettre fin aux violations des droits humains. Cette journée doit aussi être utilisée par les groupes armés pour réfléchir aux avantages de la paix sur la violence. J'ai également demandé à la force de la MONUSCO d'observer cette journée de la paix. Cette journée ne doit pas être unique. Cette journée, c'est le début d'un mouvement pour une paix durable amenant à la stabilité et à la prospérité du peuple de la République démocratique du Congo. Plus de violence, plus de viol, plus d'enlèvements ou d'extorsions. Merci bien.
Et nous restons ici à Kinshasa, dans la capitale. Maître Papi, vous êtes avec nous. Bonjour. Papi, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde.
Vous avez suivi Mathieu de Kananga qui a beaucoup insisté sur le rôle de la justice dans la consolidation de la paix. Il a aussi insisté sur l'ouverture, les dialogues. Et dans cet ensemble, comment la population congolaise peut-elle aussi être en tant que partie prenante, n'est-ce pas, dans la consolidation de cette paix?
Ok, merci beaucoup, monsieur le président, monsieur les journalistes. Comme l'a dit l'invité et d'autres intervenants, la justice et la paix, monsieur Biro, sont des notions indissociables. Donc, l'on ne peut pas parler de la justice sans paix et vice versa. Alors, cette justice-là, avant qu'elle soit équitable, qu'elle soit digne de ses noms, demande au préalable la volonté politique. Pourquoi je dis ça, monsieur Biro? Parce que c'est la justice qui intervient en amont et à l'aval à la machine judiciaire. Il est certes vrai, selon ce que nous connaissons tous, que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Mais la réalité ou la pratique nous dit le contraire. Et cette justice-là ne dépend que de la politique, parce que sans politique, la justice ne peut pas exister. Donc elle est fabriquée par la politique. Au préalable, il faut qu'il y ait une volonté politique, monsieur Firou. Alors, un autre facteur aussi qu'il faut relever pour consolider la paix dans notre pays, c'est la lutte contre la délinquance juvénile. Vous savez, une grande partie de la population congolaise est composée de jeunes. Alors ces jeunes-là, quand ils posent des actes qui sont qualifiés d'infraction à la loi pénale, il faut qu'il y ait des mesures appropriées, des traitements appropriés par rapport à ces jeunes. Mais nous remarquons dans la pratique que tout ce qui est écrit dans les traités et accords internationaux, voire même dans les lois nationales, n'est pas du tout respecté. Aujourd'hui, M. Pierrot, vous allez à Makala, donc à la prison de Makala, vous trouverez beaucoup d'enfants là-bas. Bien que là où ils sont logés, ils sont hébergés, on appelle ça quartier général, comme si c'était ailleurs, alors que c'était dans la prison. Vous savez, moi je suis pénaliste, je sais la fonction que joue la prison dans la vie du délinquant. Alors, si on ne prend pas au sérieux ce problème-là, nous, c'est déjà une bombe à retardement pour notre pays. Alors, par rapport toujours à la justice, je vais aussi soulever le problème de la justice internationale. Parce que aujourd'hui, nous parlons de la rébellion à l'est du pays. Ces gens-là sont armés, mais la RDC ne fabrique pas les armes, les armes viennent d'ailleurs. Alors, ces gens-là qui nous donnent des leçons, ce sont eux qui favorisent l'exploitation des armes et leur utilisation, leur champ de bataille, c'est chez nous au Congo. Alors, il faut que la justice internationale puisse aussi jouer un grand rôle parce que si elle ne prend pas les choses au sérieux, cela va handicaper la paix dans le monde entier. Alors, les Nations Unies, monsieur le Président, je viens d'écouter les représentants spéciaux du secrétaire général qui a parlé de la paix et qui a donné beaucoup de conseils. Mais les Nations Unies, monsieur le journaliste, a une mission selon laquelle elle doit maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais je me rends compte que elle ne joue vraiment pas ce rôle-là. C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont conjugués, mais ces efforts n'arrivent pas jusqu'au bout. Nous remarquons qu'à travers le monde, il y a toujours des guerres. Les pays où il y a des guerres, ils sont incapables de fabriquer les armements, alors que ces armes-là, soit ces effets d'armes sont fabriqués ailleurs.
Alors, papy, si on vous écoute, papy, si on vous écoute, oui, papy, si on peut vous écouter.
Le monde a été aussi affecté.
Oui, oui, oui.
Les Nations Unies.
Oui, papy, si on vous écoute, vous avez insisté d'abord sur la justice nationale. Il faudrait d'abord que la justice soit de manière indépendante pour permettre à ce que il y ait la consolidation de la paix. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de la communauté internationale dans la stabilisation, dans l'accompagnement, par exemple en RDC, le rôle des Nations Unies, le rôle aussi de la justice internationale. Mais vous insistez beaucoup sur la conscience, hein, parce qu'il y en a qui fabriquent des armes et les armes sont utilisées dans les pays des fois qui sont fragiles et ces armes sont à la base des troubles et il n'y a plus d'épée. Alors chacun doit jouer l'étranger qui est au niveau de la justice internationale pour voir aussi comment combattre la circulation de ces armes qui provoquent des guerres ailleurs. Et vous avez insisté aussi sur la lutte contre la délinquance pour les pays comme le nôtre. Cela peut aussi constituer, n'est-ce pas, à la base de la consolidation de la paix. Merci beaucoup, Papi. Tite, vous êtes à Goma, dans la province dans la province du Nord Kivu. Bonjour, Tite.
Bonjour.
Tite, vous êtes avec nous. Alors, comment arriver à consolider le processus de paix en RDC?
Bon, pour moi, il faut d'abord l'établissement de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national.
Mm-hmm.
Après ça, il y a aussi la bonne gouvernance. Puisque, par exemple, ici chez nous à Goma, nous sommes dans une province qui a subi plusieurs mouvements de rébellion, dans lesquels toujours il y a des messages des militaires, des messages des policiers. Cela aussi, malgré que les armes lourdes ne sont plus attendues dans des trousses, mais à l'intérieur de la ville, il y a toujours des secousses. Je voudrais ici évoquer le cas de ce mois, parce que de ce mois, dans les mois en cours, à Goma, ce n'était pas vraiment le moment pour qu'il y ait un concert dénommé Tous One Day pour la population de Goma. Pourquoi? Parce que ici à Goma, il y a 4 événements qui se sont déroulés dans la ville de Goma. Le premier était
Oui, si on vous suit bien, Tite, vous avez évoqué d'abord la première chose, vous avez insisté sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Vous estimez que pour arriver vraiment à la paix, à l'exemple de la province du Nord, qui vous êtes par exemple, vous estimez que s'il y a le rétablissement de l'autorité de l'État, il y a l'instauration de la bonne gouvernance, cela peut conduire à la paix. Mais vous avez évoqué la question des armes qui circulent, que ce soit dans la ville de Goma, que ce soit à l'intérieur de la province du Nord Kivu, vous estimez qu'il faut lutter contre la circulation de ces armes pour permettre à la population d'être dans la quiétude. Mais par rapport au grand événement pour accompagner cette journée, ça sera le dimanche avec les concerts One Peace Day qui s'organisent à Goma, et vous estimez que les moments n'étaient pas indiqués, mais alors cela doit accompagner en principe les célébrations de cette journée. On verra avec notre invité quelles sont les autres activités qui sont organisées, par exemple ici à Kinshasa, pour accompagner la célébration de cette journée. Merci beaucoup, Tite. Vous êtes à Goma, dans la province du Nord Kivu. Professeur, on revient à vous. Vous avez suivi nos auditeurs, tous ils sont revenus. Le problème de l'instauration, de l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de la justice. Le dialogue, on a déjà évoqué plusieurs fois avec vous depuis le début de cette émission, mais là, on a ajouté le renforcement de la justice ainsi que l'amélioration de la gouvernance et le rétablissement de l'autorité de l'État comme des choses qui doivent accompagner les processus de consolidation de la paix.
Oui, j'ai suivi attentivement. Toutes ces thématiques-là sont les nôtres dans ce que nous sommes en train de faire comme travail journalier au sein de la société civile. Il n'y a pas de nouveau, mais le vrai problème, c'est la mise en pratique de tout ce qu'on est en train de déplorer.
Uh-huh.
Il y a un programme du gouvernement, mais je crois qu'il y a aussi un problème de suffisance de moyens budgétaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire, il n'y a pas assez de moyens. C'est comme ça qu'on a déploré même la modicité du budget de l'État.
Uh-huh.
Parce que c'est bien beau d'évoquer comme nous sommes en train de déplorer ici, mais il faut toute une planification, tout un programme. Et je pense que le cri d'alarme que nous lançons, le gouvernement n'est pas sourd. Je crois qu'à l'issue du travail qu'on va abattre après cette journée, nous allons faire un plaidoyer auprès du gouvernement de manière à voir qu'est-ce qu'on peut faire à court terme, à moyen terme et à long terme.
Il y a Mathieu qui a évoqué la place de la paix dans l'éducation. Pensez-vous aujourd'hui que même le programme, vu notre situation en pays en post-conflit plutôt, même le programme scolaire, même le programme au niveau de l'université, cette thématique de la paix pouvait être aussi associée, n'est-ce pas, à la formation comme l'a souhaité Mathieu de Kananga?
Bon, écoutez, je ne suis pas ministre de l'éducation, mais à ce que je sache, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, lorsque vous essayez de passer en revue les programmes qui ont été abattus à Lubumbashi dans le cadre du programme PANE, il y a toute une, ce qu'on appelle éducation à la paix. Malheureusement, j'aurais pu souhaiter que cette éducation soit donnée à tous les niveaux, dans toutes les classes de première année de graduat, comme on le fait aujourd'hui avec l'informatique et l'environnement. Donc ce sont des cours transversaux, parce que tout le monde a droit à la paix, et ce n'est pas encore arrivé. Je crois qu'avec tout ce qui va arriver comme réforme avec le gouvernement, je crois qu'ils vont intégrer ça, même au niveau secondaire, même au niveau primaire, parce que le contenu de la matière va différer de manière graduelle. Donc il faudrait que le citoyen congolais, en naissant dès qu'il a l'âge de 5-6 ans, qui s'imprègne de la paix comme étant une préoccupation.
Nous avons Bénédiction Mihigo qui nous a écrit des Bukavu dans la province du Sud Kivu pour consolider les processus efficaces, pour consolider les processus de paix de manière efficace en RDC. Il faut que la classe politique dirigeante respecte les principes de l'alternance au pouvoir, gage de la démocratie et la stabilité nationale. Mais aussi la population doit apprendre à se désolidariser avec les ennemis de la paix. Adrien Mouyemali, Einstein, des Calémies au Katanga, il dit l'actuel président de la République a prouvé cela dans la pacification car on a accepté de partager les pouvoirs avec les autres belligérants, avoir une constitution, passer aux élections, les organiser avec tous les risques si possible, instaurer un processus démocratique bien que pas parfait, mais dis-moi c'est ça. Alors pour y arriver il faut que tout le monde se prononce de toutes les questions qui touchent à la paix, à la sécurité, que l'ensemble de la population se prononce, comme ça on pourra construire cette paix. Ou Pio Ungene de Mbandaka, il faudrait que nous puissions ratifier tous les accords si possible qui touchent à la paix, et comme ça nous serons contrôlés par les uns et les autres pour éviter que nous puissions violer cette paix. Nous avons aussi Innocent Armand qui nous a dit ceci, pour consolider les procédés en RDC, il serait souhaitable que les Nations Unies s'impliquent en continuant bien sûr à appuyer les FARDC à ce qui concerne le volet militaire, mais il faut aussi un dialogue franc entre tous les Congolais pour voir comment définir les priorités. Merci beaucoup Armand pour ce message. Maurice, vous êtes à Badolité dans la province de l'Équateur. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée à la célébration de la paix, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Maurice, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres, les responsabilités sont partagées bien sûr. Comment alors dans l'ensemble on peut s'impliquer à consolider le processus de paix?
Oui, pour maintenir la paix, moi je pourrais donner des recommandations. La première c'est l'équilibre social. Donc, que nos autorités répartissent équitablement nos revenus. Qu'il n'y ait pas d'écart de salaire, c'est-à-dire que le travailleur puisse le moyen qui peut leur soutenir pendant tout un mois. Nous recommandons ensuite la justice sociale. C'est-à-dire que nos autorités doivent respecter les lois du pays. La constitution par exemple. Donc qu'il n'étaille pas la loi à juste mesure. Et à la fin, que nos autorités choisissent. Soit ils peuvent quitter le pouvoir comme Mandela avec tout honneur, soit on sort par la petite porte, comme les différents présidents de l'Afrique.
Voilà. Merci beaucoup Maurice, vous avez proposé trois schémas pour la consolidation de la paix. Il y a d'abord l'équilibre social, cela veut dire la distribution équitable des revenus, des ressources, les salaires, les traitements doivent être équitables pour tout le monde. C'est là vraiment étant une source pour maintenir la paix. Vous avez insisté sur la justice sociale, que chacun puisse respecter la loi, mais vous avez aussi interpellé les politiques par rapport aux lois taillées sur mesure, les débats aujourd'hui autour des respects de la Constitution, vous estimez, comme l'a dit notre ami Migo de Bukavu, que le respect de l'alternance aussi, c'est la base même du pouvoir. Vous avez donné des conseils aux uns et aux autres pour respecter le principe démocratique. Merci beaucoup, Maurice Badolité, pour ce message. Nous avons aussi Mabogo Cardinal qui dit ceci, il est à Malawi. La paix, c'est l'instrument principal pour le développement d'une nation et même dans nos ménages. Sans la paix, aucune chose ne sera facile à réaliser. D'où la RDC comme pays membre, les autorités doivent être modèles pour chercher la paix pour l'intérêt de tous et non être complices pour satisfaire ses propres besoins. Elie Dalapou, malgré la paix en RDC ou pas, nous voulons que nous puissions respecter les lois du pays et particulièrement la Constitution. Et ça, c'est son le point de vue de nos auditeurs. Professeur, vous voyez, la plupart de nos auditeurs, quand on les écoute, hein, ils reviennent sur le respect des lois, le respect de la Constitution. Et quand je regarde un peu la manière dont ils ont écrit, la manière dont ils nous parlent, on dirait que la population, les auditeurs ont tendance à accuser les politiques, à accuser les gouvernements comme si c'était eux qui violent la loi et qui ne respectaient pas la loi. Bon, dans les dialogues au sein de la société civile, vous qui faites l'interface entre les politiques, quand vous écoutez les auditeurs s'adresser ainsi à la classe politique, pouvez-vous dire aujourd'hui que le grand travail reste à faire du côté de la population ou du côté des politiques qui nous écoutent pour consolider la paix?
À les entendre parler, je dégage quelque chose qui était appelé un déficit communicationnel. Mmh. C'est-à-dire que nous, la population, parce que je ne suis pas très différent d'eux, nous ne sommes pas vraiment informés de près de ce qui se fait en profondeur. Ce qui fait que quand nous avons pris l'initiative au niveau de la société civile par rapport à ces débats citoyens sur la Constitution, nous avions voulu prendre une approche participative. Nous avons dit, nous ne devons pas être dans la rue, nous devons approcher le leader qui se déchire à travers les médias. Et nous venons de contacter 12 responsables, 6 de la majorité, 6 de l'opposition. Nous avons déjà la recette. Nous sommes en train de l'analyser. Et c'est pour dire que jusqu'à la preuve du contraire, nous disons, nous avons écouté. Nous n'avons pas apprêté les intentions aux uns aux autres. Parce que quand on les a écoutés, tout le monde a recouru ou a fait allusion au respect de la Constitution. En citant bien sûr tel ou tel article. Mm-hmm. Et je crois que les auditeurs ont raison d'avoir dit qu'il faut, ils souhaitent qu'il y ait le respect des lois, et surtout la loi fondamentale. Je crois à l'heure où il est, je peux vous dire que nous, comme je peux ne pas me répéter, nous sommes dans l'approche du respect des textes. Mais nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'avec cette constitution-là, les voix, plusieurs voix se sont élevées. Oui, et à un moment donné,
en fait,
on m'avait interrogé. Moi, j'avais dit à l'occasion, j'ai dit, mais la constitution n'est pas muette. Pourquoi les gens veulent parler à la place de la constitution? Elle n'est pas muette.
Mmh. Voilà, ce débat peut-être on pourra voir, mais du moins les auditeurs estiment que consolider la paix, c'est aussi respecter les textes du pays, c'est respecter la constitution. Nous avons aussi Dieudonné Kamalolako qui nous a écrit des Goma et dit ceci: je pense que la prise de conscience de nos autorités, savoir travailler à l'intérêt de tous et non de certains individus, serait la meilleure façon de consolider la paix en RDC. Mais vous trouverez que certains de ceux qui sont au pouvoir allument le feu, après ils jouent aux pompiers ainsi, et paix et tout est déstabilisé. Alors ce qu'il faut, c'est la prise de conscience de tout et chacun pour arriver vraiment à consolider la paix. Gentillesse Mungie de Goma dit ceci: la paix, c'est un processus qui doit être appuyé par le gouvernement et cela doit venir de l'état d'âme et du comportement de tout un chacun, parce qu'à partir d'un individu, la communauté peut changer son point de vue, que ce soit discriminatoire à l'égard de telle ou telle autre personne ou telle tendance. Et il insiste beaucoup sur la discussion, le débat. C'est ça ce qui doit amener à consolider la paix. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa, vous avez suivi les uns et les autres, on termine déjà cette émission. Comment arriver à consolider le processus de paix dans un RDC, Maurice? Bonjour.
Je veux dire ceci, Giro, que la paix ne se décrète pas. La paix, c'est une conséquence logique de respect des textes et de la Constitution. Lorsqu'on dit que l'histoire de ce pays, de notre pays, est caractérisée depuis son indépendance par le non-respect des textes et la violation massive de la Constitution. Alors, si vous allez voir dans les préambules même de la Constitution, cela a été notifié. Donc, les raisons qui ont milité, que les gens se retrouvent dans un cadre d'un dialogue national pour créer des conditions d'une paix durable. Ils avaient tenu compte de cet aspect que je viens de souligner, que les textes doivent être respectés. Ces textes-là qui ont été soumis à l'approbation nationale par référendum, et c'est la Constitution que nous avons aujourd'hui. Donc la Constitution qui est le pacte national, qui est le consensus national, a fixé toutes les conditions pour une paix durable. Mais lorsque on va à l'encontre de cette Constitution, c'est-à-dire on veut la guerre, on veut la perturbation. Et vous avez constaté qu'à chaque fois quand il y a guerre quelque part, quand il y a rébellion quelque part, les gens brandissent toujours les non-respect des textes, les non-respect des accords. Donc c'est ça en fait l'histoire de ce pays.
Mmh.
Aujourd'hui, les conditions sont en train d'être déjà créées pour amener une catégorie de la population, du peuple congolais, à faire encore, à perturber la paix. Ça fait travers cette propension de violer la Constitution, de se représenter, et on brandit que c'est une Constitution des belligérants. Mais vous qui voulez modifier cette Constitution, vous êtes qui? Vous n'êtes pas des belligérants.
Alors, Maurice, vous estimez que la base aujourd'hui de la paix, c'est le respect de la Constitution, c'est le respect des textes. Si alors on arrive, comme vous l'avez dit, depuis 1960, l'histoire nous indique que tous les troubles que nous avons connus, le fait qu'on n'a pas eu la paix, c'est par l'attitude de la classe politique à ne pas respecter les textes. Si on veut vraiment une paix durable, il faut respecter la Constitution, il faut respecter les textes. Merci beaucoup, Maurice, pour cet appel. Vous êtes ici à Kinshasa. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct, 081-890-6315. Si vous avez besoin de placer les mots pour avoir une paix durable en RDC, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intervenir comme l'ont fait la plupart de nos compatriotes qui nous ont écrit à travers la page Facebook des paroles aux auditeurs pour proposer leur point de vue. Peut-être qu'on pourra voir avec la réalisation un dernier auditeur qui est déjà au niveau de notre standard pour placer les mots. Je rappelle encore l'émission était consacrée à la consolidation de la paix en marge de la célébration de la journée internationale de la paix.
Victoria du Capi, le grand concert de la paix placé sous le signe de Peace One Day en direct de l'aéroport international de Goma à l'occasion de la journée internationale de la paix. À l'affiche, école, Lexus Egal, Betty Darba, Nouvelle Boukouli et le groupe Sangoa. Peace One Day, c'est ce dimanche 21 septembre de 12h à 15h30, heure de Kinshasa sur Radio Capi. Pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Professeur Bernard Boutoula, nous revenons à vous pour conclure cette émission. On a suivi nos auditeurs. Moi, j'ai dégagé les dialogues, la justice, l'équilibre social, le respect des lois et des textes. Les auditeurs ont défini cela comme le socle pour la consolidation de la paix et une paix durable en RTC. On a suivi les uns et les autres. Quel est votre mot de conclusion, mais aussi s'il y a un programme par rapport aux activités consacrées à cette journée, bien sûr, ici à Kinshasa, au sein de la société civile?
Comme conclusion, M. Thiro, je félicite tous les auditeurs qui ont pris la parole. Et ils ont été à un très haut niveau de compréhension de la chose. Et je pense que ceux qui ont le pouvoir ou la marge de pouvoir les écouter a fait de mettre en pratique ce qu'ils ont émis comme préoccupation. C'est vraiment le moment. Parce que le dialogue tel que beaucoup ont évoqué, c'est vraiment une recette incontournable. Nous sommes des Africains et on nous avait toujours appris depuis qu'on était au bas âge que les Africains ont leur façon de résoudre les problèmes par rapport aux autres membres de continents différents. C'est le palabre africain. Donc si on est autour d'une table pour régler un conflit, ce serait mieux que de prendre les armes. Ça ne construit pas. La justice distributive, ce que un des auditeurs a évoqué, parce qu'il faudrait que le revenu de la nationale soit bénéfique à tout le monde. Évidemment, chacun avec son niveau, sa considération, mais il est tout à fait aberrant de voir que même avec un poulet paix de 200 francs, il y a des gens qui prennent les machettes pour couper les bras des gens parce qu'ils en manquent. Et nous devons régler tout ça. En ce qui concerne la célébration de la journée pour la ville de Kinshasa, il y a la marche. Il y a la marche qui va chuter jusqu'à la place des Évolués, juste en face de l'Institut pédagogique de l'ISP Gombe. C'est à partir des 10 heures. Nous irons là-bas, pas comme par le passé, nous allons planter un arbre pour cultiver la paix.
Merci. Merci beaucoup, professeur Bernard Boussoula. Vous êtes facilitateur au sein de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi aux auditeurs qui ont contribué à cette émission. On va se retrouver le lundi à 11h30 de l'histoire de Kinshasa pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Pour le moment, nous disons merci à Julie Feza qui a réalisé cette émission et Paul Bayanyama qui est avec nous toute la semaine, Nicole Gaga sur la supervision. Pierrot et la main, je vous a présenté paroles aux auditeurs. On va se retrouver le lundi. Il nous reste pour le moment à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. Au revoir.